t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts dans les contentieux électoraux liés à la présidentielle du 23 décembre 2018. Certains candidats parmi les six ont été récalés sur décision de la Cour confirmant l'irrécevabilité de leur dossier. D'autres candidats comme Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoku ont été repêchés. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre également en direct au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie dans cette émission. Piro Elameji, Nico Kalambay, Polydor Basunga, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci encore de votre fidélité. Roland, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Roland.
Oui, J.R., bonjour à vous et bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Alors, nous lançons ce débat avec vous. Quel est votre commentaire?
Oui, mon commentaire reste le même. Comme autrefois, on parlait avec vous, je vous disais que je n'espère rien de bon à la Cour constitutionnelle. Alors, voici aujourd'hui, à la raison, vous, donc, tous les compatriotes vont me donner aujourd'hui. Alors, par rapport à la déclaration, soit aux arrêts de la Cour, permettez-moi de vous dire que ça ne me surprend pas moi, ni moi encore, je n'ai rien à voir comme tel. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous avais dit autrefois également que la AMP, je suis allé même jusqu'à la bonne foi dire que la AMP, si elle mettait sa attention, elle perdait sur les élections d'une manière honnête. Mais tellement, si elle ne tire pas attention dans l'organisation, on risquerait de dire après le résultat qu'elle avait déjà triché. Pourquoi? Quand nous faisons l'hémorragie de tout ce qui s'est passé, par exemple, nous prenons les listes que le ministre de la Justice avait données à la CENI, notifiant déjà les gens qui devraient figurer sur le dossier de la CENI, ce qui posait déjà problème. Quand nous regardons également la déclaration de M. Alain Atundu, qui disait également que M. Katumbi, les autres là ne sont pas concernés, et il a même affirmé que qu'ils montent, qu'ils descendent, ils ne vont pas être candidats. Nous voici aujourd'hui. Quand vous faisiez tout ça, vous prenez ce genre des histoires qui se succèdent comme ça, vous regardez également Katumbi, qui est interdit d'arriver à Lubumbashi, donc beaucoup venir déposer sa candidature. Vous prenez Jean-Pierre Mbemba, à qui il a adhéré à l'aéroport, mais on refuse qu'il accède à sa résidence privée. Et quand vous regardez Mouzito, aujourd'hui, qu'on instrumentalise, non, d'avoir payé le la vague de son parti, au moment où il a même démissionné, au moment où le Palu lui déclare être en démission. Bon, c'est vraiment difficile. C'est ainsi que moi je me dis que la Cour Nakai a confirmé que le ministre de la Justice. Mais vous savez qu'il y a comme la radio Capi, par respect, on ne peut pas considérer les rumeurs. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs qui supposaient voir que il y a les membres de la Cour qui ont touché quelque chose. Mais nous ne pouvons pas considérer ce genre de rumeurs. Mais ça circule sur les réseaux sociaux. Tout ça va nous faire voir que on ne pouvait espérer à rien à la Cour. Ni moi encore à la prochaine occasion, lors du contentieux électoral. Moi, je crois que ça sera toujours de la même manière que la Cour agit. Par également l'inauguration ou soit l'implantation des membres de la Cour, qui posait également problème qu'il n'a pas pu respecter le règle ou soit la loi donc, qui réglementait la composition de la Cour. Donc c'est un peu de cette manière-là que moi je me dis, ça ne me surprend pas.
Voilà. Alors, si je comprends bien, Roland, si je comprends bien, vous l'aviez dit dans notre émission, dans un débat précédent dans cette émission, que vous ne vous attendez à rien, mais plutôt à une surprise désagréable. Pour vous, on y est. En vous référant au comportement et déclarations de certaines personnalités de la majorité, il y avait quoi déjà là, donc selon vous, l'intention manifeste de pouvoir exclure d'autres candidats. Et aujourd'hui, au regard de l'arrêt tel que rendu, vous sentez qu'effectivement la Cour a été inféodée. Mais est-ce que vous avez une idée, vous, Roland, de la compétence de la Cour et du contenu tel que rendu par la Cour constitutionnelle dans cet arrêt? Qu'est-ce qui a choqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les textes de cet arrêt?
Oui. Ce qui a choqué, ce qui a blessé les arrêts de la Cour, c'est quand la Cour, d'abord, moi je ne suis pas juriste, mais quand je comprends les analyses des juristes, je comprends que la Cour a fauché quelque part. Prenons d'abord le cas de Jean-Pierre Bemba. Quand on veut prendre la différence entre la corruption et subordination des témoins, il y a un problème. Parce que ici, chez nous, la loi électorale n'en parlait pas. Comment la Cour voudrait essayer d'analyser...
Mais la Cour a motivé, je crois que vous avez suivi l'arrêt, en évoquant quelques dispositions constitutionnelles qui donnent l'autorité supérieure aux traités et accords régulièrement signés avec la communauté internationale. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec les statuts des Roms, qui parle des corruptiliques, qui a tendance à aller vers la corruption. Je crois que, quelque part, les droits étaient dits.
Non, JR, écoutez. D'ailleurs, quand il faudrait peut-être essayer un peu de poser la question. Moi, je me demande, est-ce que la Cour a la compétence d'interpréter ce genre de choses? Ici, ça devrait être plutôt la Cour de cassation qui devrait essayer d'analyser la Cour.
Est-ce que vous personnellement, vous avez une idée, Roland? Est-ce que vous avez une idée de compétences de la Cour? Est-ce que vous avez déjà lu l'article 168 de la Constitution qui évoque la compétence de la Cour?
Oui. La Cour a le droit d'interpréter d'abord les dispositions de la Constitution. C'est ça d'abord la première mission qu'elle doit. Et aussi la Cour a le droit d'interpréter ou soit de remettre à l'ordre certaines dispositions ou soit certains problèmes ayant trait à la Constitution. Donc ça c'est vrai, c'est ça la vraie mission de la Cour. Mais est-ce que aujourd'hui quand on interprète les dispositions qui réglementent la cour nationale, infligeant une condamnation à quelqu'un, c'est plutôt la Cour de cassation qui devrait interpréter ça, qui devrait peut-être casser. Mais ici, c'est la Cour constitutionnelle. Donc la Cour est allée au-delà de ses prérogatives. La Cour n'a qu'à y faire la volonté de la majorité manifeste de l'AMP. Nous ne suivons pas, mais nous croyons. Mais quand nous prenons également le cas de Mouzito, mais soyons quand même honnêtes, quand quelqu'un a démissionné, il a fait une plateforme, la plateforme que lui donne également le feu vert de poser sa candidature. Mais il amène tous ces papiers-là devant la CENI. Aujourd'hui, on lui dit de n'avoir pas eu la voix de son parti. Mais est-ce que Ramazan Shadari en est aussi? C'est ça le problème. Est-ce que Ramazan Shadari... Il y a beaucoup de choses...
Alors, Roland, merci beaucoup. Mais moi, je vous renvoie lire également l'article 168 de la Constitution qui évoque les compétences de cette haute cour, notamment au point 2.1 où on parle du contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption et au point 2 du contrôle de la constitutionnalité d'actes après leur adoption. Merci beaucoup, Roland. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je crois que c'est vraiment une honte pour cette haute instance de la République démocratique du Congo parce que il a encore une fois de plus raté son train, il a encore une fois de plus raté l'occasion de pouvoir restaurer son image ternie tout juste après ses premiers arrêts. sur le mandat du président de la République ainsi que sur la requête de la CENI qui a vraiment mis son image. Je pensais que c'était vraiment une occasion pour leur cour constitutionnelle de pouvoir retrouver ces très bonnes couleurs parce que c'est une instance qui gère des affaires hautement politiques et que des interprétations fallacieuses pourraient, comme c'est le cas maintenant, entamer la quiétude dans le pays et entamer justement le processus.
Alors Kevin, est-ce que avez-vous lu l'arrêt en question? Qu'est-ce que vous avez retenu de cet arrêt?
Je suis en possession de l'arrêt et je trouve que c'est une interprétation partisane. Pourquoi je le dis?
Donnez quelques exemples. Donnez quelques exemples des paragraphes qui vous renvoient à cette réflexion.
Quand on lit par exemple l'article, je vais au niveau du statut de Rome. Quand on lit l'article, je crois 70 du statut de Rome, là où on parle de simulation des témoins. La simulation des témoins, il ne peut pas s'agir toujours de versement de sommes d'argent ou autre ou de pots de vin. Il peut s'agir aussi des représailles pour faire taire un témoin. Ok, parce que il peut être vrai aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba a subordé les témoins. Est-ce que cela a consisté à un quelconque versement d'argent? Non. Alors que la corruption dont parle ici le code pénal congolais, il s'agit versement des sommes d'argent, mais il ne s'agit pas des représailles pour faire taire ou bien pour faire changer.
Mais quand vous lisez l'esprit et la lettre de cette disposition du statut des Roms, on se rend compte que c'est toute autre forme de corruption. Peut-être convaincre les témoins de manière verbale à apporter un témoignage qui est faux, par exemple.
Non, tout le monde en sait, même quand on lit le code pénal, lorsqu'on parle de la corruption, on fait allusion au versement des sommes d'argent. On ne fait pas allusion aux représailles et autres, tout ça. On ne fait pas allusion à cela. Quand même ça, on prend ça de côté. On prend la sphère irrévocabilité et irrévocabilité des décisions. En fait, c'est ce que l'article 10 de la loi électorale.
Oui, mais tout à fait. Mais l'arrêt que vous avez là devant vous évoque l'arrêt de la Cour qui a été versé d'ailleurs dans le dossier de la CENI qui intervenait dans ce procès comme partie accusée. Donc, voilà.
Justement, mais un arrêt qui n'est pas encore définitif parce que l'affaire est en cours. Parce que jusque
mais la Cour constitutionnelle a signifié que c'est... la décision a été transmise par les ministères de la Justice à la CENI disant que c'était un arrêt définitif. Parce que la deuxième instance de la chambre de la cour avait demandé confirmant la décision de la première instance et en demandant simplement de revoir le taux de peines.
Non, écoutez, JR, comment ça se passe au niveau de la CPI? La CPI ne fonctionne pas toujours comme des juridictions nationales. Et lorsque la CPI prend ses décisions, il peut se retrouver dans deux postures. Soit il commence par rendre un verdict de pour ce qu'on appelle la décision de culpabilité, et après, on va rendre une décision pour ce qui est de la fixation de la peine. Et là où nous sommes, on a posé des jalons pour ce qui est de la culpabilité. La Cour s'est dit que Jean-Pierre Bemba est coupable de subordination des témoins. Mais on n'a pas encore fixé les taux de la peine. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, au-delà de ça, lorsque on est en première instance et que le Jean-Pierre Bemba a encore la possibilité d'interjeter appel pour suspendre maintenant la décision et que se rendre justement compte que la décision est encore révocable, mais la Cour constitutionnelle s'attelle sur cet aspect des choses et c'est ce qui fait couler le salive parce que c'est pas une
décision. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons ces débats. Merci beaucoup Kevin. Vous êtes également déçu comme Roland aussi qui ne s'attendait pas à une vraiment surprise agréable et il a dit il y avait déjà l'intention manifeste de pouvoir exclure d'autres candidat. Ben néanmoins, il y a cet arrêt qui motive la décision de la Cour constitutionnelle. Trésor, vous êtes à Kinshasa. Quel est votre sentiment?
Bien, merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. J'aimerais dire que moi, j'ai passé 5 ans en train d'apprendre les droits. Et pas à cause de cet arrêt que je dois me décourager. Nous avions suivi, celui qui lisait l'arrêt dire quelque part que la Cour a constaté que le législateur n'a pas déterminé la juridiction qui va connaître l'une matière qu'on avait énumérée quelque part là. C'est là pour justifier le fait que le juge de la Cour constitutionnelle a bien compris que la Cour n'est pas compétente de trancher sur des infractions pénales, notamment la subornation des témoins et la corruption. Mais ils se sont efforcés de faire plaisir à ceux qui sont peut-être derrière cet arrêt, que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Donc, en droit, la compétence d'une juridiction est un moyen d'ordre public que le juge peut soulever à tout moment. Donc là, du début jusqu'à la fin du procès, une juridiction peut se déclarer incompétente ou compétente. Mais il faut qu'il y ait un texte qui dit cela. Il n'y a pas un texte qui autorise à la Cour constitutionnelle de trancher en disant que la subornation des témoins sur la corruption, ce n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est déjà la faute grave dans le chef des juges de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître du contentieux électoral. Ça, c'est correct. Mais comme il y avait d'autres matières complexes, la Cour...
Eh oui, est-ce que Maître Trésor, vous êtes d'accord avec moi que le juge de la Cour constitutionnelle, au fait, la Cour constitutionnelle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction, à la demande de toute personne qui l'invoque?
Oui, mais je ne suis pas dans un procès qui faisait appel à l'exception
de l'inconstitutionnalité. Pour les cas d'espèce, la requête formulée par les candidats dont les dossiers ont été déclarés irrécevables, quelle était la motivation? Ils demandaient, c'était un recours en annulation. Et qu'en ce moment, la Cour était appelée à faire le contrôle de l'inconstitutionnalité des lois évoquées par la CENI.
Bien. La CENI avait présenté ses moyens pour se défendre par rapport à la requête de tel ou tel candidat. Spécialement, ce qui concerne le candidat Jean-Pierre Bemba. Il y avait des moyens soulevés par la CENI. La Cour avait la compétence d'examiner les moyens concernant les contentieux électoraux.
Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce que la Cour a fait en évaluant
au-delà du contentieux électoral, notamment la subornation des témoins et la corruption. Ce sont des infractions. Il y a une autre juridiction qu'on appelle la Cour de cassation. Et dans notre pays, la Constitution a prévu 3 ordres de juridiction dans l'exposé des motifs de la Constitution. Il y a les juridictions de l'ordre judiciaire chapeautées par la Cour de cassation qui traitent des questions concernant des peines pénales. Il y a aussi les juridictions de l'ordre administratif chapeautées par le Conseil d'État. Et l'ordre de la Cour constitutionnelle, elle est seule dans cet ordre-là. La Cour constitutionnelle, pour ce qui est des matières pénales, elle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre, pas plus. Donc tout ce qui reste, infraction pénale, tout ça, la Cour devrait orienter en attendant que la Cour de cassation nous éclaire pour que nous puissions trancher en ce qui concerne les contentieux électoraux sur la candidature de Jean-Pierre Bemba. Là, on allait aider nos frères qui sont à la faculté de droit. Aujourd'hui, c'est un bouleversement au niveau de la faculté de droit. Parce que les juges qui sont professionnels sont des expérimentés. Et d'ailleurs, on les appelle les ingrats de la République. Ils devaient être ingrats vis-à-vis de celui qui les a nommés. Donc, ils ne pouvaient pas faire plaisir à celui-là parce qu'il nous a nommés. Non, ils doivent être ingrats et demeurer ingrats vis-à-vis de celui-là. Aussi pour le cas d'Adolphe Mouzito, par exemple, l'article 15. Je suis désolé. Adolphe Mouzito, nous avons suivi l'actualité de très près. Il a déposé sa candidature sur la liste des regroupements.
Oui, on ne reviendra pas sur ça. Ben, de toute façon, Vous avez dit que les juges sont des ingrats de la République. Vous avez lu l'arrêt, c'est vrai. En évoquant bien entendu, comme vos prédécesseurs, la compétence de la Cour. Aujourd'hui, il s'apprête à confusion par rapport à cet arrêt. Maître Trésor, vous avez manifesté votre déception aussi en disant que la compétence, en tout cas en droit, la compétence est d'attribution. Merci beaucoup, Maître Trésor Likonza, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors Franck, vous nous avez également rejoint à ces niveaux du débat. Vous êtes à Texas, aux États-Unis, à Dallas. Merci de nous rejoindre. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, tout le monde.
Quel est votre avis?
Ok. Oui, merci. Je suis très bien à le sujet et le débat. Mais je suis fort désolé de constater que tout le monde qui intervient est en train de personnaliser les problèmes. Mm-hmm. Alors que moi, ici, je ne suis pas là pour personnaliser, pour voir les cas d'un individu. Mais je parle en tant que décision de l'institution du pays. Donc, la décision de la Cour suprême a agi en tant qu'institution du pays et non pas voir personnaliser une personne. Donc, pour moi, d'abord, je ne peux dire que je peux me réjouir du travail de la Cour constitutionnelle qui a fait que, selon ce constat, il a réhabilité certaines personnes et a définitivement exclu certaines personnes. Ça, c'est ça une institution dans un pays. Donc, quant à nous, nous ne devons que nous appuyer à des décisions des institutions du pays. C'est ça qui donne la valeur dans un pays, l'intégrité d'un pays. Mais lorsque les gens se mettent toujours à contester les décisions des institutions, bon, finalement, on va arriver à un point à se poser des questions. Bon, pourquoi maintenant il y a des institutions dans un pays? Lorsque la décision ne tombe pas en votre faveur, vous êtes là contesté par-ci, par-là. Écoutez, il y a des gens qui vous entendent, il y a des gens qui vous voient et qui vous admirent ou pas. Donc moi, c'est ça mon premier constat dans ces affaires. Alors, maintenant, s'il faut maintenant prendre le temps pour individualiser les cas, et comme tout le monde parle toujours du cas de Jean-Pierre Bemba, bon, écoutez, je pouvais même rentrer plus loin, comme ça se fait dans d'autres cieux, au niveau de la loi électorale. Et si la loi électorale pouvait dire que qui n'est éligible à la candidature à la cour à la présidentielle, que c'est lui qui n'a pas de grève passée il y a 5 ans. Que pouvez-vous dire? Parce que pour moi, je ne peux pas comprendre, tout le monde débat sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Quelqu'un qui vient tout fraîchement de la prison, et vous tous, vous admettez qu'il soit président dans un pays. Et même si les gens qui vous voient, les gens qui vous entendent. Donc, peut-être mon erreur que je constate, qu'il fallait rentrer au niveau de la loi électorale qu'on puisse insérer comme condition que celui qui n'a pas de grève de condamnation quelconque quelque part il y a 5 ans. Comme ça, on va voir maintenant où est-ce qu'on va classer le problème de Jean-Pierre Bemba.
Merci beaucoup.
Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, nous devons nous appuyer aux décisions de nos institutions. C'est ça qui donne la valeur dans un pays.
Merci beaucoup. Alors, c'est l'occasion.
Une personne manque dans une course, dans une course et vous en faites un problème.
Voilà, c'est l'occasion d'ailleurs parce que vous voulez
accepter et puis ils vont organiser le pays.
Merci beaucoup. On va entamer la deuxième demi-heure de cette émission, tout en rappelant que l'article 168 de la Constitution parle des arrêts de la Cour constitutionnelle qui ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Donc ça, c'est pour rejoindre vos propos de tout à l'heure. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé des Texas aux États-Unis, à Dallas. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour, Adrien.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Pépé Lissungi, vous êtes à Kisangani. Pépé, bonjour, Pépé. Pépé Lissungi, bonjour.
Oui, Gilles, bonjour.
Pépé Lissungi, bonjour.
Bonjour, je vous écoute, Gilles.
Voilà, vous gardez la ligne. Il est temps pour nous de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats en composant les 081-890-6330.
Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous y sommes donc, on entame donc la deuxième demi-heure de cette émission. Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo.
Quelle est votre contribution?
Oui, merci beaucoup, cher, de la parole que vous m'accordez. Je pense que je vais intervenir sur trois axes. Premièrement, il faut d'abord situer les choses. Dire que la Cour constitutionnelle n'était pas compétente, je pense que c'est donc aller plus loin avec notre analyse. Mais il faut dire que sur 100% du travail fait, la Cour constitutionnelle, à mon humble avis, a fait à 75% un bon travail. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que lorsque nous prenons maintenant le cas général, la Cour constitutionnelle, c'est un juge. Donc, comme nous appelons, c'est un juge de la constitutionnalité. Lorsque nous prenons le cas de Jean-Pierre Bemba, la Cour est allée quand même au-delà. Pourquoi? Parce qu'elle devait d'abord commencer par annuler ce qui était fait par la CENI. Pourquoi annuler? Parce que la CENI s'était comportée comme une juridiction et non comme une institution d'appui à la démocratie. Donc la Cour devrait déjà se rendre compte que sur le plan de la Constitution, la CENI ne pouvait pas aller jusqu'au-delà de considérer donc la subornation des témoins comme étant une corruption. Voilà là où la Cour a commencé par pécher. Et puis deuxièmement, la Cour, tout en se rendant compte que cette question-là s'est posée avec acuité, la Cour constitutionnelle devait faire comme ce que l'a dit mon ami Trésor, sur soi, pour saisir maintenant le juge de l'interprétation de la loi. Le juge de l'interprétation de la loi, c'est la Cour de cassation. C'est à ce juge-là qui pouvait nous dire, est-ce la subornation des témoins égale à la corruption? Donc le débat devrait être clos à ce niveau-là. Donc vous allez vous rendre compte que sur ce premier aspect, il y a eu un problème. Le deuxième aspect, dans le même ordre d'idée, là, c'est ce que moi je dis, c'était une décision politique. Parce que lorsque nous lisons tous l'article 10 de la loi, donc de la loi électorale, on cite nommément donc les infractions qui devraient faire à ce que donc la personne ne soit pas éligible. Et ce que moi j'aime, c'est la linéa qui dit qu'il faut que la décision soit irrévocable. Mais lorsque nous rentrons dans le cas de Bemba, admettons, allons même dans l'extrême hypothèse que la subornation des témoins vaut corruption, est-ce que cette décision-là est au jour d'aujourd'hui irrévocable? Je dis non.
Oui, Maître Adrien, semble-t-il que selon la motivation de l'arrêt, les militaires de les ministres de la justice auraient transmis donc à la CENI les arrêts de la cour qui au fait marquent un caractère définitif.
Non, Gilles, vous allez vous rendre compte que la CPI avait même réagi. Parce que nous tous, nous suivons donc cette situation. La CPI a même, c'est vrai, tout en reconnaissant que Ben était coupable, mais la juridiction d'appel a renvoyé le dossier donc à la première chambre pour proposer une sanction. Donc ce qui fait que Jean-Pierre Bemba avait encore une possibilité d'aller dans une autre voie de recours qu'on appelle révision de la décision. Maintenant, lorsque nous prenons le cas Mouzito, là je pense que je marche totalement avec la cour. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la motivation de la cour dit ceci. Monsieur Mouzito dit qu'il aurait démissionné du Palou le 4 août donc 2018. Or, il y avait une décision précédente qui suspendait Mouzito au sein du Palou. Et Mouzito avait pris acte donc de cette suspension. Et aujourd'hui, lorsqu'il dit qu'il a démissionné, il y avait un flou. Et pour troisièmement, il n'avait jamais renoncé à son mandat, donc à la députation nationale, ce qui créait certainement ce conflit d'intérêts.
Oui, mais Adrien, là aussi, c'est ce qui soulève encore des débats. Nous avons vu des ministres abandonner leur parti, notamment à UNC, je peux citer les ministres du budget et tant d'autres, et qui n'ont pas perdu les sièges qu'ils avaient au Parlement. Il y a tant d'autres ministres aussi, bien avant de la majorité, qui sont restés. Bon, voilà, donc il y a quelque part, même les auditeurs qui ont commenté ces débats en disant qu'effectivement, il y a deux poids, deux mesures.
Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est un cas qui, donc, c'est que Mouzito soit en appel. Pourquoi? Parce que lui était candidat à la présidence. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas certes postulé pour les comptes du Pérou, mais on lui a reproché un conflit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre le cas des autres ministres parce que ce cas-là n'a rien à voir avec la présidence parce que ce gens-là n'avait pas postulé. C'est ce qui fait que, dommage de constater que quelque part, Mouzito...
Mais voilà, alors Adrien, quelque part, c'est la loi qui dit que quand on quitte un parti, on perd les avantages, les privilèges, que tout ça. Et surtout si on s'est représenté à l'Assemblée nationale sous les labels de ce parti. Donc je crois que le bon sens voudrait qu'on laisse tout quand même, même les sièges qu'on a gardés. Merci beaucoup Adrien. Pépé, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour Pedro, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution Pépé?
Oui, je commence d'abord par ce qui est l'un des auditeurs qui a précisé, même Adrien, qui a dit qu'on est contre les institutions du pays. On n'est pas contre les institutions du pays, mais plutôt on est contre de ce qui se fait. Hein? Si c'est bon, on applaudit. Si c'est mauvais, il faut le dire. Donc, je commence d'abord par le dossier Bemba. Pour le dossier Bemba, à mon avis, bon, là, il n'y a pas tellement de débat. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle a profité aux lanternes de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'on attend les 17 septembre pour être fixé. Et la Cour pénale internationale savait que la RDC, nous sommes à plein processus électoral et que Bemba est candidat. Donc, que ce soit les raisons, la Cour devait statuer le plus tôt possible pour donner la chance. Si la Cour n'est pas interrompue ou corrompue ou comment, il devait prendre des décisions vite. Donc, pour le dossier Bemba, là, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que la Cour a profité au lanterne de la Cour pénale internationale pour agir ceci et c'est correct. Maintenant, pour le cas Mouzito, moi, je pense que on est libre d'adhérer et de quitter un parti. Même si on te suspend, suspension ou pas, on peut me suspendre aujourd'hui, demain je m'adhère dans une autre parti. Cela ne justifie pas que je me suis adhéré, je suis obligé de mourir dans ces partis-là. Donc, il y a des choses qui ont été faites par précipitation ou politiquement ou pour éliminer les autres. C'est le cas de Mouzito, mais pour Bemba, là, il n'y a pas de débat. Mais pour Mouzito, c'est là où les choses n'est pas claires. Même si je ne suis pas un juriste, par rapport aux données aux déclarations de la Cour par rapport aux à la requête de Mouzitou et par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport à sa politique actuelle. Moi, je pense que Mouzitou a été éliminé politiquement, mais pour Bemba, ça va un peu, bon, on ne peut rien.
Merci beaucoup, Pépé Dissougui. Alors, Maître Boupila, vous êtes à Guémena, Bernard également. Guémena, c'est pratiquement les fiefs de Jean-Pierre Bemba. Quelle est votre réaction?
Bonjour, J.R.
Et la parole?
Allô?
Vous avez la parole, Maître Boupila.
En tout cas, merci beaucoup. Je commence d'abord à regretter les propos de Pépé. Il dit pour Bemba, il n'y a pas de débat, mais je sais qu'il y a un débat des droits qui se pose. Si Pépé n'est pas un juriste, mais nous, juristes, nous regrettons, parce qu'il a attendu la pauvre dame, la maman Bazaïba, qui est parlée à radio au Capi le matin. Elle a dit, s'il vous plaît, qu'est-ce que cet arrêt va donner comme leçon aux juristes, aux professeurs et à nous, les avocats? Peut-être qu'il n'est pas juriste, ça peut pas très déranger. Ça, c'est de un de deux. Je crois que si les juges de la Cour ont compris les collègues ce matin, qui était aussi juge comme eux à la Cour constitutionnelle, qui a quitté, il a regretté. Mais je sais bien que non, quand ils ne seront pas juges, ils vont regretter ce qu'ils ont fait à Bemba aujourd'hui. Ça, c'est de un. Moi, j'ai été enseigné par mon grand professeur Nyambidou, que je respecte. Il m'a donné leçon sur les infractions type et l'infraction nommée. Le même Nyambidou vient à la radio, dit le contraire de ce qu'il m'a renseigné, et j'ai regretté, et c'est vraiment blessant. J'y ai été né, s'il vous plaît. J'ai attendu un monsieur avec légèreté. Je ne parle pas comme un fief de Bemba, je parle comme avocat enseigné par un grand professeur comme Nyambidou, qui m'a enseigné aujourd'hui la contradiction. C'est la subordination des témoins et la corruption qui sont deux infractions différentes. S'il vous plaît, il dit que non, pourquoi tout le monde parle de Bemba? S'il ne connaît pas qui est Bemba, il demande à Dieu.
Maître Mopila, je crois que notre auditeur, Franck de Texas, a beaucoup plus et s'est soucié de fait que on arrivait parfois à personnaliser les débats. Tout le monde qui prenait la parole commençait à parler d'une seule personne. Voilà, donc c'était ça son souci.
Si lui il est de la majorité, et donc on parle que non, c'est le droit.
C'est un échange de citoyens. Chacun a son droit.
Il a dit que non, c'est son droit, mais il doit comprendre que non, tout juriste doit être énervé par cet arrêt. Parce que je ne peux pas comprendre que non, on fait la confusion entre la corruption et la cibolette.
Alors, Maître Mopila, juste une question. Avez-vous lu l'arrêt?
Monsieur, est-ce qu'on peut lire un arrêt?
Et qu'est-ce que vous reprochez à cet arrêt?
C'est décevant comme ça?
Et comment
lire ça, c'est décevant.
Quels sont les critiques?
C'est impopulaire, je n'ai pas lu un seul arrêt.
Quelle est la critique que vous formulez par rapport à cet arrêt?
Critique est quoi? Que les juges là, ils ont rendu un mauvais arrêt. Malheureusement pour eux, cet arrêt, c'est pas attaquable, c'est attaquable. On devait démontrer ça en droit. Mais ils doivent comprendre que non, comme ils sont là pour la population et pour les droits.
Bon, alors je vous pose.
Ils sont pas là pour faire les sentiments alors.
Alors je vous pose la question. La première question. Savez-vous que la Cour constitutionnelle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité? Parce que vous êtes juge.
Là, il faut maintenant chercher à satisfaire. Parce qu'ils ont juste des choses, des questions. Non. Il n'y a rien de droit, j'insiste, il n'y a rien de droit parce qu'il y avait le problème de la corruption et si vous donnez des témoins.
Alors.
Pour Bemba, il juge la présomption d'innocence parce qu'il est en appel. Il n'y a pas une condamnation définitive, alors, Julien.
Alors, mais je ne sais pas comment, l'arrêt définitif ou l'arrêt de la Cour est arrivé comme, l'a motivé le juge de la Cour, auprès de la CENI. Parce que c'est le ministre de la Justice qui a transmis l'arrêt et qui révèle un caractère définitif.
Mais s'il vous plaît, Julien, on dit qu'il y a indépendance. Il y a indépendance, le pouvoir exécutif ne peut pas se mixer au pouvoir judiciaire. Comment le ministère de la Justice se permet de donner des correspondances? Ça c'est s'immiscer contre la Constitution, alors entre nous, JR.
Merci.
C'est au Congo, et ça énerve les juristes, ce comportement.
Merci beaucoup, Maître Mopila, d'avoir appelé de Guémena. Bernard, vous êtes à Guémena également. On comprend l'émotion de Maître Mopila. Quelle est votre réaction, Bernard?
Oui, bonjour, la radio Capi. C'est Monsieur Bernard Mbembo qui vous appelle de Guémena. Par rapport à la thématique du jour, c'est parce que vous nous avez dit de faire la lecture sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. À mon humble avis, avant d'y aller d'être au vif de notre débat du jour, je voudrais être tout petit peu, parce que nous ne faisons pas la guerre sur les ondes de la radio Capi, mais rappeler à notre camarade des États-Unis, dire que Jean-Pierre Bemba vient fraîchement de la prison, il n'est plus capable d'accéder à la magistrature suprême, mais ça m'étonne. Donc c'est parce que peut-être, je ne maîtrise pas l'histoire, je ne sais pas s'il a connaissance, c'est sur Mandela. Donc Mandela revenait de la prison, bien sûr, mais il était devenu chef de l'État. Ça, c'était une parenthèse. Mais par rapport à la thématique du jour, parce que vous avez demandé de faire cette lecture, je dois beaucoup plus féliciter ceux qui ont gagné, Sami Badi Banga et la dame, vraiment félicitations, qu'il concourt, n'a pas de problème, mais je regrette déjà. De toutes les façons, je prends le cas d'Adolphe Mozito. On dit, on suppose qu'il est en conflit avec les Palous. Mais ça m'étonnerait, messieurs JR, soyons logiques et soyons un peu chrétiens. Si vous regardez bien, Adolphe Mozito, bien sûr, ils ont dit qu'il est en conflit avec les Palous, mais il avait quand même démissionné. Ça, c'est un élément qui prouve combien il ne fait pas partir des Palous. Mais Trifo Kike Mulumba, n'a même pas démissionné de l'AMP, mais on a accepté, on a jugé que sa candidature soit recevable. Messieurs, on se trouve dans quel état? Ça, c'est un élément sur Adolphe Mozito. Et pour Jean-Pierre Bemba, je voudrais dire ceci. Bon, peut-être que la Cour constitutionnelle a loupé sa chasse, et quoi, de dire le droit, parce que je ne suis pas juriste, de toutes les façons, je connais que la Constitution nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dans ce sens, il a complètement rejeté le caractère de l'irrévocabilité. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle, le 17 septembre, si la Cour constitutionnelle pourra décider si Jean-Pierre Bemba si la CPI aura décidé sur la peine de Jean-Pierre Bemba et que la Cour constitutionnelle dira le contraire. Parce que il n'est plus condamné d'une manière définitive. Donc c'était provisoire, c'est parce qu'on a renvoyé.
Voilà, je crois que bon, il y a des juristes qui vont participer dans cette émission, comme on entame le dernier quart d'heure. Voilà, on va quand même étayer tous ces problèmes juridiques. Étienne, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue. Bienvenue Étienne, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour mon frère JR.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution est celle-ci, que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont rendu cette cour-là illégitime par défaut de compétences sur le traitement des matières qui ne lui sont pas dévolues. Parce que les matières pénales sont des compétences de la Cour de cassation. Et l'arrêt de la Cour pénale internationale sur Jean-Pierre Bemba n'est pas irrévocable. Le fait même que mon compatriote Adrien a bien explicité la chose pour dire que l'irrévocabilité de cet arrêt-là de la CPI est un élément essentiel pour prouver ce que, d'abord, la procédure du recours en appel de la première chambre de la juridiction ne permet pas à ce que une institution comme la Cour constitutionnelle puisse s'appesantir sur une matière d'une disposition comme celle-là. C'est pourquoi je m'en vais dire que ces arrêts-là ne donnent plus la crédibilité ou la légitimité auprès de notre Cour. À ce que l'on je vois aussi le cas d'Adolphe Mozito, qui est purement un cas politique, car il y a une administration de la justice de deux poids et deux mesures. Si Mozito est récalé pour n'avoir pas démissionné de sa qualité de député national issu de Palou, alors que Sami Badi Banga est réhabilité dans la course, pendant qu'il n'a jamais aussi renoncé de son statut de député national issu du parti politique UDPS, je sais qu'il dit, dont il ne fait plus partie. Allez-y comprendre qu'une même institution qui administre une justice à deux poids deux mesures, si on doit réhabiliter Sami Badi Banga, mais si nous suivons de près, Sami Badi Banga a été élu comme membre de l'UDPS El Tshisekedi. Mais si sa candidature doit être réhabilitée dans la course, et alors qu'il n'a jamais lui-même démissionné de l'UDPS El Tshisekedi et qu'il a formé un autre parti politique et continue à siéger au Parlement comme député politique issu de ce parti-là, allez-y comprendre que notre cour, comment est-ce qu'elle se comporte.
Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé des Kikwit, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi. Parole
les auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, dans quelques minutes, on va se séparer avec vous. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Omar,
bonjour,
vous êtes avec nous.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, quelle est votre lecture après avoir suivi vos prédécesseurs qui ont évoqué tantôt l'incompétence de la Cour pour juger en matière pénale et aussi d'autres qui ont manifesté, qui n'ont pas hésité de manifester clairement leur déception par rapport aux arrêts. Alors, vous aussi, en tant que juriste, vous avez une lecture à faire par rapport aux motivations de ces arrêts.
Merci beaucoup, JR. D'abord, je salue la décision du juge suprême, le juge constitutionnel, qui a décidé in iure de facto. Parlant de la compétence, je voudrais rappeler à tous les juristes qu'un juge ou un tribunal ou une juridiction a trois compétences. C'est la compétence matérielle et la compétence temporelle et c'est la compétence personnelle. La compétence matérielle, ce sont les matières que le juge est censé connaître. Et parlant de la haute cour dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui, ces compétences sont très bien connues. Il est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Il est le juge du contentieux électoral, ce qu'il fait actuellement. Il est le juge arbitre lorsqu'il y a conflit entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et puis il est également le juge de la conformité de toutes les lois et en force de loi par rapport à la Constitution. Je me sens vraiment écœuré. Les avocats et les magistrats sont régis par ce qu'on appelle la déontologie. Que la décision judiciaire soit bonne ou mauvaise, nous n'avons pas le droit de critiquer ce qu'il dit. Nous devons relever un niveau démocratique dans ce pays. Sami Badi Banga, lorsqu'on a invadé le niveau de la CENI, il a fait une conférence de presse jusqu'à traiter certaines autorités du pays de l'étranger. Aujourd'hui, la Cour a traité en sa faveur, on n'a pas vu Sami Badi Banga passer. C'est pas parce que le juge dit une chose à votre défaveur, il faut commencer à l'insulter. Parlons de l'affaire en question. La Cour a traité par rapport à sa compétence électorale, qui consiste à savoir est-ce que les candidats qui ont été déposés, les candidatures de déposer ont été conformes à la loi. Lorsque la Cour cherche à savoir s'il y a une subordination de corruption, la Cour ne tranche pas s'il y avait une matière pénale telle que certains le disent. On condamnerait même peut-être à 10 ans, 20 ans de prison. La Cour n'a condamné personne. La Cour est en train de motiver. Il y a un des principes en droit. Le jugement doit être motivé. Alors le juge doit dire pourquoi je suis arrivé à évader telle candidature, c'est pour telle infraction. Puisqu'il y a eu débat des avocats, il fallait donc prouver qu'il y avait réellement subordination. Il faut que nous élevons les débats. Ce que moi je vous ai conseillé, surtout aux avocats de Bemba. Vous savez, il n'y a qu'au Congo où un avocat est généraliste. C'est-à-dire, on est avocat, en même temps, on plaide en matière familiale, on plaide en matière de divorce, on plaide en matière de crime. Ailleurs, il y a des spécialités. Nous avons des spécialistes en matière de droit constitutionnel. Lorsqu'on a une affaire sérieuse, il faut chercher des avocats sérieux. Deuxième chose, on ne vient pas faire rire les chiffres devant une haute cour comme ça. En droit, je vous ai dit la fois passée, il y a plusieurs sources. Il y a la constitution, les traités, il y a la loi, il y a la doctrine, la justice. Mais il y a des sources obligatoires, à savoir la loi et la coutume. On ne peut pas venir devant le juge citer des doctrines qu'il faut rire les gens. Il faut prendre des matières au sérieux. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, moi je pense que la décision a été faite. Il y a encore une chance pour Bemba. Nous attendons le dernier arrêt de la Cour pénale internationale. Si cet arrêt la quitte par rapport à la subordination, il y a ce qu'on appelle en droit la révision d'un jugement. C'est la dernière voie de recours. C'est-à-dire on peut revenir sur le même juge constitutionnel et dire, monsieur le président de la haute cour, on a acquitté Bemba, si vous pouvez revoir votre décision.
Mais ça sera à deux jours, ça sera à deux jours. Oui, Omar, maître Omar, ça sera à deux jours de la publication de la liste définitive, avec tous les risques.
Yes. Oui, le souci, c'est que la haute cour pénale puisse décider avant. Parce que selon la loi, s'il arrive que la CPI acquitte Bemba et que cela se passe avant la publication définitive, on peut toujours saisir le site pour la révision. En matière de révision préciosière, même si la CENI publie, même si la Cour publie la décision définitive, dès lors il est établi qu'il y avait erreur dans le jugement et que cette erreur est prouvée, les juristes le savent, on peut toujours initier une révision. Et cette révision a comme conséquence de réhabiliter quelqu'un dans ses droits. Il y a autre chose pour les gens de Bemba. L'article 7 de la loi électorale donne la possibilité à son parti politique de remplacer notre candidat. Il n'est pas le seul, on peut le remplacer. Il y a encore une dernière possibilité. Il y a une Cour des droits de l'homme qui hésite, c'est où nous l'avons ratifié au niveau de la RDC. Si on estime qu'au niveau interne ça ne marche pas, les avocats de c'est la haute cour africaine des droits de l'homme, parce qu'il y a une violation des droits fondamentaux. Je pense que nous devons cultiver le respect des juridictions. Madame Marie-Josée, M. Sami Badi Banga ont critiqué la haute cour, mais aujourd'hui, ils sont acquittés, personne ne parle. La loi a été respectée, le juge a motivé sa décision, l'ex pessima cède l'ex, même si la loi est mauvaise, elle demeure la loi. Il n'y a que la haute cour qui peut interpréter un ce droit. Nous ne faisons que des analyses. Je voudrais donc en finir pour dire que nous devons développer un niveau élevé de la loi. Lorsqu'on a des affaires aussi sérieuses devant la haute cour, les avocats doivent cesser de faire des blagues, mais plaider au fond. Voilà ma petite contribution à ce débat.
Alors donc, vous rejoignez Adrien qui parlait tout à l'heure de travail bien fait au niveau de la cour, si pas à 100%, mais à 75%.
Oui. Très cher Gilles, nous sommes juristes et nous l'avons dit. Pour les conduites probatoires, lorsqu'on allègue des faits disant que la cour est instrumentalisée, il faut arriver à les prouver. La cour constitutionnelle en matière électorale est un juge de forme et non un juge de fond. Son travail consiste à savoir est-ce que le dossier qui a été déposé était conforme à la
loi. On l'a fait.
Mm-hmm. La décision de la cour ne rencontre pas votre sentiment juridique. C'est pas mon problème. Et n'oubliez pas, sûr, le droit est une science humaine. Ce n'est pas comme les mathématiques ou la physique.
Ce n'est pas une science exacte. Merci. Merci beaucoup, Maître Omar. Voilà. Merci beaucoup, Maître Omar. Vous avez assez parlé. Donc, on va terminer avec Évariste Mboujimaï. Évariste, bonjour. Évariste, vous êtes avec nous.
Bonjour, JR. Bonjour, tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce niveau du débat. Ok. JR, je vais dire ceci. Concernant les cas d'Adolfo Muzito, Adolfo Muzito lui-même savait très bien qu'il sera écarté dans cette course, même quand il était parti déposer sa candidature. Et après avoir déposé sa candidature, il a été écarté. Il a eu encore le courage d'aller faire recours à la Cour constitutionnelle. Il a fait les recours à la Cour constitutionnelle, il est encore écarté. Donc, cette fois-ci, pour lui, il est là en train de prier, disons, de plairer son argent dépensé. Il est là en train de plairer son argent dépensé. Combien d'argent? 100 000.
Ben, je ne pense pas. Je ne sais pas si il vous l'a dit, personnellement.
Non, il ne m'a pas dit ça. C'est une estimation.
C'est que vous supputez, vous imaginez qu'à ce moment, il n'y a pas que lui. Il y a Moka aussi qui a été récalé, qui doit regretter aussi ses 100 000. Il y a également Jean-Pierre Bemba aussi. Pourquoi vous pensez seulement qu'Adolphe le regrette?
Non, j'ai opéré d'abord un cas d'une seule personne. Je n'ai pas opéré le cas de toutes ces personnes-là. Mais hier, je voulais savoir, je suis là en train de méditer intérieurement. Après cette publication d'une liste provisoire, on avait écarté 6 personnes. Donc, après encore, nous entendons maintenant la liste définitive. Quand on va publier encore une liste définitive, on va écarter encore certaines personnes ou bien les 19 personnes qu'on avait écartées par la CENIA. On va publier une liste avec 19 personnes ou bien on va publier une liste définitive avec certaines personnes et certaines personnes seront écartées.
Alors, comme Omar n'est plus en ligne, peut-être lui en tant que... Omar, vous êtes là? Allô, Maître Omar? Maître Omar, voilà, malheureusement, sinon, bon, à ma connaissance, le fait que la CENI n'a pas saisi la Cour pour invalider d'autres candidats qui ne l'étaient pas donc avant, je crois que le problème ne se pose pas, ça reste dans le cadre de supputation. Normalement, ceux qui étaient concernés sont allés, ils ont présenté les requêtes à la Cour et la Cour s'est prononcée quant à ceux. Et la liste restera toujours de 19 plus les 2.
Merci beaucoup, voilà. Je ne vous coupe pas la parole, juste encore une curiosité. Allô?
Oui, allez-y rapidement parce qu'on on est presque à la fin.
Ok, je dis, la CENI va publier une liste définitive. Après la publication d'une liste définitive, là, les candidats qui seront encore écartés vont aller déposer encore les recours à la Cour constitutionnelle ou bien ils vont faire
bon,
quoi.
Bon, voilà, je crois que là, c'est le travail au wait and see. On verra qu'est-ce qui va se passer après le 19... le 19 septembre 2018. Merci à tous de l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Parole aux auditeurs. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à sa production, à Alain Goy, Nico Kalambay, Pierrot et Lameji, sous la supervision de Martin Sebujangue. Ces magazines vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.